Les chants ont présenté le combat, la présence de Dieu autour de nous. Et ces chants-là introduisent bien la pensée que j'avais sur le cœur. Et j'aimerais vraiment prendre le temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, de lire ce psaume pour qu'on puisse réaliser vraiment ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Le psaume 91 commence par quelque chose de conditionnel. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, donc ce n'est pas tout le monde, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. On a le retour du conditionnel, mais tout le psaume est inconditionnel, hein. Que ce soit bien clair, il est introduit par celui qui, et ici il est encore question, puisqu'il s'attache à moi, donc il est question de s'attacher à Dieu pour vivre toutes ces choses, hein. D'accord, c'est pas, il faut bien comprendre ça. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. C'est un psaume qui nous montre toute la grâce du chrétien qui est entouré par la grâce de Dieu. Le chrétien qui, malgré les combats, et ce psaume dit justement qu'il y a des combats. Mais le chrétien, il a cette grâce de voir que les flèches peuvent aller à droite, à gauche. On peut se retrouver spectateur de quelque chose. Regardez ce verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. On est un peu comme si on était en dehors d'une bataille, un peu mis à l'écart, sous une protection. Et c'est ça qui ferait qu'on comprenne. Il y a un combat, certes, mais celui qui s'attache au Seigneur, eh bien, il sera protégé. Et c'est ce que ce psaume veut dire. Maintenant, j'aimerais qu'on lise d'autres textes. Matthieu, chapitre 12, verset 25. Ce verset annonce une loi divine. Une loi divine. Qui est d'ailleurs, qu'on peut constater du côté de Dieu quand il fait réussir une bataille. Et malheureusement, qu'on constate aussi de l'inverse. C'est-à-dire que le diable, c'est aussi la même tactique qu'il emploie. Verset 25, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Que ce soit Dieu, Dieu a utilisé cette loi. Si vous ne me croyez pas, on va regarder deux versets. Juges 7, 22. Excusez-moi, je vous fais lire, mais je trouve que c'est bien, là, cette fois-ci, de prendre quelques textes quand même pour bien vérifier ces choses. Juges chapitre 7, verset 22. On a l'affaire de Gédéon. Ils sont juste 300. Et au chapitre 7, au verset 22, on a exactement la description de cette loi. Les 300 hommes sonnèrent donc du cor, et dans tout le camp, L'Éternel tourna l'épée des uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Bethshitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tavath. Les sons des trompettes sonnent, ils sont juste 300, et qu'est-ce qui se passe? Ils se tuent les uns les autres. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Un deuxième exemple, 1 Samuel, chapitre 14, verset 20. On a là une victoire de Saül, et Dieu est avec eux. Verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici que chacun tournait son épée contre son voisin. Et la confusion était extrême. La loi de la division. Dieu sait s'en servir. Le diable aussi sait s'en servir. Mais c'est une loi qui est très puissante. Parce qu'à elle seule, elle détruit un peuple entier. La loi de la division. Jean chapitre 15, verset 12, Jésus nous dit ceci, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » C'est un commandement, je dirais un ordre de marche de notre capitaine. Restez groupés, parce que vous êtes sur un champ de bataille. Et l'Église, ceux qui forment le peuple de Dieu, ils ont besoin pour leur subsistance de rester ensemble, de rester groupés. On l'a tous déjà entendu dans le domaine militaire, de rester groupés. L'union fait la force. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. On l'a tous entendu. Et ce que dit Jésus ici, c'est exactement ce principe. La loi de la division fait des ravages. Et le peuple de Dieu n'est pas appelé à se diviser. C'est une manière que le diable sait très bien utiliser. Proverbe 16, 28. L'homme rusé, je vous la cite dans la version du français courant, l'homme rusé provoque des disputes et le calomniateur détruit l'amitié. Il y a des divisions. Et le diviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il agit d'une manière assez simple. Et le pire, c'est que le diviseur, il combat même pas, il n'est que spectateur du peuple qui s'entretue. Le diviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il sème la confusion. Au point que plus personne ne sait qui est l'adversaire. Ne sachant qui est l'adversaire, eh bien, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde où est-ce qu'il se sent menacé et il se défend. Et voilà exactement comment la confusion peut régner. Voilà exactement comment ça peut se passer. On est dans une désunion totale, on est dans une confusion, on ne sait plus qui est avec nous, qui est contre nous, alors on se défend tout seul. Et quand on arrive à se défendre tout seul, eh bien, on n'est plus dans le schéma que Dieu veut parce que on est dans la défense, dans l'autodéfense et on va faire des bêtises. L'homme regarde les apparences quand il a peur. Vous avez jamais lu? Si, vous l'avez tous lu ce texte. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, qu'est-ce qu'il dit ce texte? Il dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, ça c'est une vérité aussi fondamentale qui explique que Dieu regarde au cœur et Dieu ne regarde pas aux apparences. Réfléchissons un instant, c'est un trait caractéristique de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, logiquement, on doit arriver à ce niveau aussi. C'est un texte qui doit aussi être notre partage. Ne pas regarder ce qui frappe nos yeux, mais regarder plus loin, regarder au-delà. Parce que quand je regarde ce qui frappe les yeux, il va y avoir de la confusion. Il va y avoir une division, une désunion. Tous les enfants de Dieu devrait réfléchir à ces choses. Et malheureusement, quand on commence à connaître, on est encore sur l'autodéfense, je dirais, et la moindre menace, on est prêt à sortir l'épée envers notre frère, notre sœur. Et c'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu ne se fie pas aux apparences? Parce que les apparences, elles sont trompeuses. Les apparences, parfois, elles peuvent correspondre à une réalité, mais bien souvent, les apparences, elles peuvent nous tromper. Elles peuvent nous induire en erreur. C'est pour ça que le chrétien, il doit veiller plus que n'importe qui d'autre à ne pas se fier aux apparences. Je vais donner quelques exemples. Le premier exemple des apparences qui nous trompent, je citerai les circonstances de notre vie. Pour ça, on ne va pas le lire, je vous donne des références. Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 32. On a cette affaire où l'apôtre Pierre se retrouve à marcher sur l'eau. Et il marche sur l'eau. Mais à un moment donné, que fait Pierre? Il regarde ce qu'il y a autour de lui. Les apparences sont en train de lui montrer que tout va mal. Il est quand même en train de marcher sur l'eau à ce moment-là, mais c'est impossible. Vivant l'impossible, on peut aussi croire que même si les apparences nous donnent une réalité, c'est pas forcément ce qui va se passer. L'apôtre Pierre, je pense qu'à sa place, on aurait tous enfoncé. On va pas fustiger Pierre, mais ça donne bien l'exemple. Et au moment où il regarde ce qui l'entoure, il se fie à des apparences et que se passe-t-il? Il s'enfonce. Qu'est-ce qui va le sauver? Un regard vers Jésus, une prière vers Jésus, et Jésus va le sortir de là. L'apôtre Paul écrit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, selon cette histoire, selon même ce verset, on peut en déduire une chose, c'est que des circonstances peuvent nous paraître défavorables, et pourtant, il n'en est rien. Ce sont des apparences trompeuses. L'inverse est vrai. On a un exemple dans la Bible aussi, Luc, chapitre 12, versets 16 à 21, où on a cette affaire avec le jeune homme riche, où les apparences semblent lui dire que tout va bien. Il est en sécurité financière, il n'a absolument aucun souci à se faire, la récolte a été bonne, il a amassé plein de choses dans son grenier et il commence à avoir des problèmes de riches. C'est bien. Les apparences lui montrent qu'il est en sécurité. Les apparences lui montrent que tout va bien et qu'il va mener une longue vie. Sauf que dans cette histoire, qu'apprenons-nous? C'est que ces apparences sont aussi trompeuses parce que la nuit qui suit cette réflexion, il apprend que son âme va être redemandée. On peut croire que, alors que les circonstances semblent favorables, que tout va bien, et finalement, c'est pas forcément vrai. Les apparences sont trompeuses. Ce qui doit nous aider au niveau des circonstances, qu'elles soient favorables ou non, c'est considérer ce que dit la parole. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Voilà quelque chose qui ne nous trompera pas. Jacques écrit aussi, toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rappelez-vous le psaume 91 que j'ai lu en introduction. Celui qui s'attache à Dieu, il est sous la protection divine. Que les circonstances paraissent défavorables ou non, il ne faut pas que ça influe sur notre comportement. Il ne faut pas que ça vienne influer sur des décisions, sur des choix. Parce qu'on risque de faire des erreurs. Une parenthèse sur les temps à venir. On a cette parole dans 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une apparence de paix, de sûreté, et pourtant, que dit le texte? Juste après, une ruine soudaine. les apparences qui nous trompent. Et malheur à celui qui s'appuie sur des apparences, parce qu'il sera déçu plus d'une fois. Autre chose, autres apparences qui pourraient nous tromper, nos propres forces. Ésaïe a écrit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, versets 30 et 31. Jacob, toute sa vie, a compté sur ses propres forces. Mais on voit le résultat. Il voulait s'en sortir, il voulait la bénédiction coûte que coûte, mais il ne comptait pas sur Dieu. Et il comptait sur lui-même, sur ses propres forces, sur ses propres capacités à obtenir, à réussir. Et on découvre dans le début de la vie de Jacob quelqu'un qui truque, quelqu'un qui manigance, quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui ment. Voilà à quoi mène de compter sur nos propres forces. Compter sur nos propres forces, par moments on peut réussir certaines choses. Mais ce que dit Isaïe, c'est que celui qui ne cesse de s'appuyer sur ses propres forces, il finira forcément par tomber, par se fatiguer. Et qu'est-ce que Dieu fait comprendre à Jacob dans sa vie ? C'est quand il lutte avec Dieu, il mène un combat. Et finalement, le combat de Jacob est le résumé de notre combat à nous dans la vie. Et comment ressort-il de ce combat ? L'ange lui a frappé à l'emboîture de la hanche et il est obligé de marcher en s'appuyant sur un bâton. Et là, on a l'image de celui qui ne doit plus compter sur ses propres forces, qui doit compter sur quelque chose d'extérieur, qu'il doit s'appuyer sur quelque chose d'autre, son bâton en l'occurrence. Il y a quelque temps, j'ai apporté cette pensée sur l'appui du bâton, et il y a deux versants dans ce bâton. Il y a le versant de la grâce, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Quand je tombe, quand je suis faible, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Et l'autre versant, c'est je m'appuie sur les promesses de Dieu, sur ce qu'il me dit dans sa parole. Et s'appuyer sous-entend quand même beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire cette prédication, mais quand on prend appui, il y a une certaine prise de risque, il y a un certain abandon, parce que c'est ce qui nous aide. Si l'appui n'est pas bon, c'est la chute. Si l'appui n'est pas bon, c'est même la blessure, parce que je me serai appuyé sur quelque chose de pas solide, et mon appui fera que je vais me blesser. Mes propres forces, je ne peux pas m'appuyer dessus. Je ne peux pas m'appuyer dessus. Parce qu'un jour ou l'autre, peut-être que pendant un certain temps, tu vas tenir. Mais il y a un moment donné, tu vas craquer. Et j'ai vraiment à cœur cette parole pour quelqu'un qui peut-être depuis des semaines et des semaines ne cesse que d'essayer par lui-même, par elle-même, de réussir, de bien faire, etc. Mais celui qui continue sur cette voie, il finira par fléchir, c'est obligatoire. Parce que la Bible est claire, c'est pas sur tes propres forces qu'il faut t'appuyer. Il faut t'appuyer sur le Seigneur, sur sa parole. C'est le seul appui possible. Les apparences de tes propres forces te tromperont et te blesseront si tu t'appuies dessus. Une autre apparence trompeuse, qu'elle a positive cette fois, c'est l'inverse. Je peux aller chercher loin. La faiblesse. Quand on lit le 4e chapitre de l'évangile de Jean, on se rend compte à quel point c'est vrai. Jésus était dans la faiblesse. Il était fatigué. Et alors qu'il était fatigué, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, parce que sinon physiquement, il n'aurait quand même pas demandé à boire. Il avait soif. Il avait soif. Et là, on a une histoire formidable où tout un village va se convertir. Tout un village se convertit, alors que Jésus n'aura même pas fait un seul miracle. De la faiblesse dans laquelle il était, Dieu a manifesté sa force. L'apôtre Paul, quand il a ouvert les églises en Galatie, il l'explique aux Galates. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. On peut paraître faible, quelqu'un peut paraître faible au milieu de nous. Quelqu'un, je dirais, humble, qui ne fait pas de bruit, qui est discret, j'en sais rien. Quelqu'un à qui on ne fait pas attention. Et pourtant, cette personne, aux yeux de Dieu, c'est une personne qui est forte. Les apparences nous trompent. Les apparences nous trompent. Et la Bible nous encourage à ne pas nous appuyer sur des apparences, parce que ces apparences, elles nous trompent. Maintenant, il est question de combat. Ce message, il parle de combat. Les apparences, elles nous trompent. Pourquoi on en arrive à s'entretuer les uns les autres? Parce qu'on ne sait plus qui est l'adversaire. Si on se fie aux apparences, on va attaquer les mauvaises personnes. On va frapper là où il n'y a pas à frapper. J'aimerais qu'on lise ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes avertis dans la parole sur l'adversaire, les adversaires. Et ce texte est très clair. Je vais vous le relire dans une autre version où on comprendra encore mieux. Mais ce verset nous dit clairement qui sont nos adversaires. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà les adversaires. La version Parole vivante dit ceci. Écoutez bien. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Donc c'est vrai que pour beaucoup, on se retrouve des fois à lutter contre nous-mêmes parce que, comme l'écrit Paul aux Romains, il y a des choses on aimerait les faire, on n'y arrive pas, etc. Et on peut tomber dans le piège de combattre contre nous-mêmes, contre notre propre nature. Je continue. Nous n'avons pas à lutter contre de simples ennemis mortels. Mon frère ou ma sœur qui m'a dit une parole désobligeante, qui a fait quelque chose qui m'a contrarié, bref, quelqu'un qui m'a offensé. Ce n'est pas contre ça que je dois lutter. Mais nous luttons contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. C'est bien dit. Mais tout ça pour dire que le combat du chrétien, il n'est pas à mener contre qui que ce soit. Et je rappelle le commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Et il nous faut rester groupés, il nous faut rester unis et ne pas tomber dans le piège de la division, de l'individualisme. À partir du moment où je réfléchis à mon propre intérêt, je crée déjà entre guillemets une division parce que je ne suis plus dans la logique du groupe. Donc quelque part, je suis déjà une sorte de division à moi tout seul. Et le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Si tu luttes contre des hommes, tu te trompes de cible. Si tu luttes contre toi-même, tu te trompes de cible. Si tu luttes contre des circonstances défavorables, on l'a vu, tu te trompes de cible. Si tu t'appuies sur des circonstances favorables, tu t'es trompé d'allié. Si tu t'appuies sur tes propres forces, tu t'es aussi trompé d'allié. Parce que le combat, C'est pas ça. Le chrétien est appelé à un combat tout autre. Alors, de quel combat s'agit-il ? On l'a lu, l'apôtre Paul nous le décrit dans ce verset d'Éphésiens. Le combat, il a lieu contre des créatures célestes. Alors, vous allez me dire, là, ça commence à devenir un peu compliqué. En fait, c'est assez simple. La Bible nous dit qu'une partie des anges se sont rebellés contre Dieu. Quand Dieu a créé tous les anges, tous ont vu Dieu. Tous. Tous avaient accès au monde céleste. Tous avaient une grande connaissance. Pas celle de Dieu, bien sûr, mais ils avaient quand même une certaine connaissance que nous, on n'a pas. Et malgré tout, une partie d'entre eux ont choisi délibérément de s'opposer, de refuser Dieu. Eux, ils ont vu. Ils se sont rebellés. Maintenant, Dieu, il fallait qu'il trouve une solution pour être juste dans son jugement vis-à-vis d'eux aussi. Et c'est là que l'homme rentre en jeu. Parce que l'homme sera la preuve pour ces êtres-là qu'il est possible de suivre Dieu, de l'aimer de tout son cœur, sans l'avoir vu. Par la foi que l'homme exerce, et on va arriver au combat, le vrai combat, par la foi que l'homme exerce, eh bien, quelque part, on pourrait presque dire que justice va être faite. Parce que ceux qui n'ont pas vu prouvent qu'il est possible d'aimer Dieu sans l'avoir vu, d'avoir une communion avec Dieu sans l'avoir vu, et donc que ces anges qui se sont rebellés sont inexcusables. Ils ne sont pas pardonnables. À l'inverse de nous qui marchons par la foi, on a accès au pardon. Pourquoi ? Parce que, justement, on a les yeux bandés. On marche par la foi. C'est là, justement, tout le combat qui a lieu. Quand j'exerce un acte de foi, eh bien, entre guillemets, je porte un coup dans ce combat. Parce que c'est une condamnation. Et ça, l'apôtre Paul, il l'a écrit aussi. Un Philippien, Philippiens tout court, parce qu'il n'y a pas deux Philippiens, chapitre 1er, verset 27, jusqu'au verset 30. Là, il y a un peu aussi un résumé. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, donc on retrouve l'unité, combattant d'une même âme, l'unité à nouveau, pour la foi de l'évangile. Il est question de la foi. Et le verset 28 est très intéressant. Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Alors, maintenant, de quels adversaires s'agit-il ? Ben, c'est les adversaires d'Éphésiens 6:12. L'apôtre Paul ne contredit pas ce qu'il a écrit lui-même. Je le relis, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Regardez la suite. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et tout ça, le fait que je crois et que je suis même prêt à souffrir, c'est justement la réponse. Nous sommes la réponse à ces êtres-là qui se sont rebellés contre Dieu. Nous sommes cette réponse. C'est notre destin que de vivre par la foi. C'est notre destinée, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et des fois, on voudrait voir. Et c'est normal, on voudrait voir des fois. Sachons reconnaître justement ce que Dieu a voulu. Je termine ma lecture. En soutenant, verset 30, le même combat que vous avez vu livrer et que, vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Le combat dont il s'agit, c'est le bon combat de la foi. C'est ce à quoi je suis appelé. Le jour où je me convertis, un coup est porté dans le monde céleste. C'est obligé. Parce que le jour où je me convertis, ça veut dire que j'ai cru dans ce que j'ai entendu. J'ai cru que la parole était la vérité. Je me suis repenti. Je me suis rapproché de Dieu. Je me suis réconcilié avec Dieu. J'ai cru dans l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Et pourtant, je n'ai rien vu. Et grâce à ça, grâce à cet acte de foi, grâce à ces actes de foi répétés dans ma vie de tous les jours, eh bien, je suis un combattant. Je suis un combattant. À chaque fois que je fais confiance à Dieu, quand j'ai été offensé, ça doit nous aider à relativiser beaucoup de choses. Le jour où une personne vient me voir et m'offense, eh bien, si j'ai ce regard-là, eh bien, je n'ai pas à lutter contre les gens, mais j'arriverai à considérer qu'il y a quelqu'un qui veut que je me décourage, il y a quelqu'un qui veut que je me lamente sur mon propre sort, il y a quelqu'un qui veut que je finisse mal, et donc il y a des circonstances qui sont permises où si je ne veille pas, eh bien, je vais considérer la personne au lieu de considérer celui qui est à la source, qui essaye de m'attaquer. À partir du moment où l'adversaire est démasqué et qu'on ne se fie pas aux apparences, on va pouvoir bien réagir. Pour cela, j'aimerais juste lire en introduction de ce dernier point. Je vais terminer là-dessus. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. On voit tout l'encouragement que l'apôtre Paul donne à Timothée. Et là aussi, c'est un commandement, mais on peut le penser au sens du commandement du commandant en chef. 1 Timothée, verset 18, chapitre 1er. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelqu'un l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est le combat de la foi. Si vous reprenez Éphésiens 6, l'apôtre Paul décrit les armes du chrétien. Et toutes les armes, toutes, elles ont un rapport avec la foi. Toutes. Et j'aimerais juste terminer là-dessus. Les armes du chrétien, l'apôtre Paul, il décrit des armes qu'il voyait de son temps. Et les armes que les Romains avaient à l'époque, c'était des armes en cuir, tannées et oint d'huile. Pour certaines, elles étaient durcies. Je me suis renseigné quand même pour voir. Le tannage, c'est une opération qui consiste à rendre une peau corruptible et peu résistante à l'eau et à tout ce qui pourrait arriver dessus pour l'abîmer, en cuir imputrescible et résistant. Le durcissement du cuir, quand j'ai vu ça, j'ai souri. C'est une opération qui consiste à donner une forme à un cuir tout en le rendant plus résistant aux impacts et aux chocs. C'est utilisé par exemple pour fabriquer des étuis, des fourreaux, tout ce qui peut avoir une forme que le cuir va conserver. Comment on durcit le cuir ? Premièrement, on l'immerge dans l'eau. Alors si je décris une méthode, il y en a d'autres, mais cette méthode-là m'a interpellé. Il y a une deuxième, donc on l'immerge dans l'eau, donc il va s'imprégner d'eau. Ensuite, on lui donne sa forme en plantant des clous pour qu'il puisse conserver la forme qu'il doit avoir. Et enfin, on le met au four. Une fois qu'il est passé au four, eh bien, on peut le ressortir. Comme il est imprégné d'eau, la réaction chimique va faire qu'il va se durcir. Et une fois qu'il est sorti du four, on le oint d'huile pour le rendre résistant. Est-ce qu'il faut rajouter des commentaires ? La première armure du chrétien, elle se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. il les a revêtis. Et l'apôtre Paul, il utilise ce même verbe, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut se revêtir. Alors, dans les armes, il y a la ceinture de la vérité, c'est elle qui porte l'épée, d'ailleurs. Parce qu'on accroche le fourreau à la ceinture. Il y a des liens. Et la ceinture doit aussi nous permettre de nous déplacer facilement. Je citerai juste ce texte, psaume 51, verset 7, je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La ceinture, c'est ce qui est au niveau des reins, ce qu'il y a de plus profond de nous. Ensuite, il y a la cuirasse. Vous savez d'où vient le mot cuirasse ? Ben, du cuir. Parce que les premières cuirasses, elles étaient faites en cuir. Du cuir résistant, comme je l'ai décrit. Et la cuirasse était censée protéger tout le corps, tout le buste. C'est la cuirasse qui couvre notre péché, qui couvre notre honte. C'est, on la revêt, la cuirasse, comme un vêtement. C'est pour ça que j'ai cité Adam et Ève quelque part, parce que les vêtements que Dieu lui donne, que Dieu leur donne, c'est une cuirasse. C'est ce qui couvre leur péché, c'est ce qui couvre leur nudité. Les chaussures du zèle, tout ça, il y a de la foi dedans, parce que la ceinture de la vérité, il faut croire que la parole soit la vérité. Il faut croire que je sois pardonné de mes péchés. C'est obligatoire. Si je n'y crois plus, c'est comme si je ne l'avais pas sur moi. Les chaussures du zèle, c'est les bonnes dispositions de cœur. Là encore, et David, psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Les chaussures du zèle, dans ma version, j'ai justement... C'est pour ça que j'ai cité ce verset. Les chaussures du zèle... Moi, j'ai verset 15, « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Un esprit bien disposé, qui nous permettra de faire ce que Dieu nous demande. Le bouclier de la foi. Là encore, ce bouclier était fait en cuir durci, ou oint d'huile, et qui sert à plusieurs choses. L'huile sert pour le cuir lui-même, pour qu'il reste bien, mais aussi, ça permet de faire glisser les flèches qui vont dessus. Donc il y a plusieurs emplois. Mais toujours ce bouclier, il nous parle de la foi. Parce que quand on est attaqué par le diable, par ses dominations, par toutes ces choses, alors on a ce bouclier. On croit aux paroles de Dieu. On croit que, alors que je suis offensé peut-être par mon frère, ma sœur, je ne me trompe pas de cible. Et je considère que Dieu conduit et dirige toute ma vie. Et que s'il permet telle ou telle situation, eh bien, je ne vais pas tomber dans l'amertume. Je vais sortir le bouclier de la foi parce que je crois que Dieu, comme on l'a lu dans le psaume 91, me protège, me garde. Et il peut m'arriver quoi que ce soit, je fais une totale confiance en mon Dieu. Le bouclier de la foi. Je suis protégé contre les attaques du malin parce que le malin, il utilise. Il nous utilise comme des outils. Le casque du salut, c'est lui qui protège notre tête, le centre de nos raisonnements, de nos décisions, de nos émotions. Et il est pleinement efficace si je décide. C'est ça. Si je décide, quand je suis attaqué par le diable, de m'opposer, de résister au diable. Et ça, c'est un exercice de la volonté que de s'opposer au diable quand il m'accuse. Quand je dois m'opposer au diable quand il est là pour essayer de me laisser plus bas que terre, de me faire croire que non, je suis tombé, je peux pas me relever parce que Dieu va pas me pardonner. Non. Si je décide, là, de ne pas l'écouter, alors c'est comme ce casque du salut qui me protège parce que tout à nouveau, je peux me raccrocher à Dieu qui me tend la main. Et l'épée de l'esprit, elle m'a posé plusieurs soucis parce que très très longtemps, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Et un jour, j'ai lu l'histoire de Salomon. Et il y a une histoire avec Salomon où il demande une épée. Apportez-moi une épée. Est-ce que l'épée a servi à frapper quelqu'un ? Absolument pas. C'est une épée qui a servi de révélateur. C'est une épée qui a permis à celui qui s'en servait de prendre une bonne décision, de faire un bon choix. Et c'est pour ça qu'il est question de l'épée de l'esprit, parce que nous sommes appelés, justement, à discerner. Nous sommes appelés à discerner, à ne pas tomber dans la confusion comme on l'a lu, à ne pas tomber dans comme ces armées qui s'entretuent les unes les autres. Quand un frère vient me faire une remarque désobligeante, eh bien, est-ce que je vais discerner? Vous savez, il y a cet épisode où Jésus discerne à la perfection ce que dit Pierre. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, c'est pas de toi que tu dis ces choses, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Le discernement de Jésus. 2 minutes après, Jésus parle de sa mort. Qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Jésus discerne. Jésus discerne avec l'épée de l'esprit. Voilà à quoi elle sert, cette épée de l'esprit. Elle sert à avoir un bon discernement. Elle sert à reconnaître l'adversaire. Parce qu'à partir du moment où je ne reconnais pas l'adversaire, à partir du moment où je regarde ce qui frappe mes yeux, je vais me faire du mal et je vais faire du mal à tous ceux qui m'entourent. Et la loi de la division va faire son travail. Je crois qu'il faut qu'on demande au Seigneur toute son aide, tout son soutien, pour que on puisse vraiment, de tout notre cœur, combattre ce bon combat de la foi. C'est un combat de notre vie, à nous tout seuls, mais c'est aussi un combat de nous tous, à savoir dans nos relations les uns avec les autres, apprendre à discerner justement, les vrais adversaires. Apprendre justement à rester unis malgré ce qui pourrait nous chatouiller un peu, nous piquer. Mais quand on a reconnu les adversaires, eh bien, on n'est plus affecté par les gens. Et c'est ça qui nous aide à pardonner. Parce qu'on sait que les personnes qui peuvent nous faire du mal, eh bien, comme l'apôtre Pierre, il n'a pas cherché à faire du mal à Jésus. Il lui a dit ce qui lui est passé par la tête. Mais c'était inspiré par le diable. Mais il n'en voulait pas à Jésus. Et bien souvent, on tombe dans un piège parce qu'on croit que les gens nous en veulent. On croit que les gens, ils sont contre nous. Mais on est dans l'esprit de la division qui va nous détruire. Il ne nous faut pas regarder à ces choses. Il nous faut regarder au-delà. Parce que nous n'avons pas à regarder ce qui frappe nos yeux, une offense par exemple, mais il nous faut regarder au-delà, au cœur. Essayer de demander au Seigneur, Seigneur, tu vois ce qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé comme ça ou il m'a parlé comme ça, mais je te demande ta grâce pour cette personne. Peut-être qu'elle est fatiguée. On n'a pas ces raisonnements-là naturellement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous y aide. Et ne tombons pas dans ces pièges. De se battre les uns contre les autres. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. La loi de la division, ce n'est pas pour l'Église. Jésus nous appelle à rester groupés, à rester unis, à nous aimer les uns les autres. C'est ce que le Seigneur veut pour nous.